14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Je croyais être acquitté de ce procès pourri. Et je pourrais pas oublier si j'avais découpé un Bernard que j'aimais bien. Pour moi, c'était comme un frère, vous voyez. J'ai pas de secret.
Bonjour, la voix de Simone Weber. Simone Weber, morte à 93 ans dans sa maison de retraite à Cannes. Celle qu'on avait surnommée la Diabolique de Nancy. Y vivait depuis plusieurs années un des noms les plus célèbres de la chronique criminelle. Mais pas une tueuse en série. Elle avait été condamnée pour le meurtre d'un seul homme, son ancien amant, et acquittée pour le décès suspect de son deuxième mari. Autant d'accusations qu'elle a toujours contestées. Elle nous avait réservé dans l'heure du crime en 2021 son ultime interview. Elle répétait n'avoir jamais assassiné personne. Elle se présentait comme une bouc émissaire. Lors de l'enquête, les policiers et le juge d'instruction Gilbert Thiel ont appris à découvrir ce personnage tout aussi extravagant qu'inquiétant, une grand-mère pimpante et apprêtée, mais qui évoluait dans un univers peuplé de mensonges, de double vie, de dissimulation, d'escroquerie et d'entourloupe. Dans ce brouillard, il va falloir du temps pour discerner la femme qui a découpé un homme à la tronçonneuse et parvenir à la confondre. Qui étiez-vous, Madame Weber? C'est la question que nous posons à celui qui la connaît le mieux, son juge, Gilbert Thiel.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous revenons sur le parcours de Simone Weber, un nom devenu emblématique de la chronique judiciaire et qui apparaît à l'été 1985 au détour de la disparition inexpliquée d'un homme qu'elle connaissait très bien. C'était son amant. Lundi 1er juillet 1985, Patricia Etier est au commissariat de Nancy. Elle est venue signaler la disparition de son père, Bernard Etier, 54 ans, un employé de l'usine Solvay à Dombasle. La dernière fois qu'il a été vu, c'était à l'usine le samedi 22 juin, à 5h du matin. Il a quitté son poste de nuit pour rentrer chez lui, rue Sainte-Barbe à Maxville, où il vit seul après deux divorces. Mais depuis, plus rien. Une semaine plus tard, un appel à témoins est publié dans le journal L'Est Républicain avec une photo de Bernard Etier. Qui a vu cet homme? Corpulence mince, 1m75, cheveux grisonnants, blouson beige, pantalon gris. Sa voiture, une Renault 9 de couleur bleue, est également recherchée. Les policiers établissent qu'après avoir quitté l'usine, Etier est passé de manière impromptue chez une amie qui habite Nancy. Il lui a demandé qu'elle l'héberge quelques heures car il ne pouvait pas rentrer chez lui. « T'as pas l'air de me croire, mais elle m'attend avec un fusil », a-t-il déclaré. Allusion à une ancienne maîtresse, une certaine Simone Weber, 54 ans. Il ne veut plus la voir, mais elle s'accroche, le suit partout, le surveille. Vers 10h, Bernard repart chez lui, mais Simone Weber est toujours là, immobile. « C'est sûr que je vais me faire engueuler », confie-t-il alors à des voisins. À 11h45, Bernard Etier et Simone Weber quittent en même temps la maison, chacun au volant de sa voiture. Les policiers s'intéressent à cette Simone Weber qui a deux appartements à Nancy, avenue de Strasbourg et rue de Kronstadt. Mais pas question d'inquiéter tout de suite cette femme. Dernière personne à avoir vu Bernard Etier vivant, on la place sous surveillance, des témoins sont entendus. Le chef du personnel de l'usine révèle avoir reçu le 2 juillet, lendemain du signalement de la disparition, un arrêt de travail de Bernard Etier. La lettre a été curieusement postée depuis Épinay-sur-Seine, bien loin de Nancy. La police interroge le médecin, il décrit un patient petit, trapu, tout le contraire d'Etier. Il s'agit en fait d'un gendre de Simone Weber. Elle m'a demandé de me faire passer pour Etier, qui avait besoin d'un certificat médical, va témoigner le gendre. Les découvertes continuent. Les voisins du dessous de Simone Weber au 158 avenue de Strasbourg, les époux Hague, racontent que le 22 juin au soir, il y avait un homme chez elle, la cinquantaine, mince, ils ne l'ont pas vu ressortir. Les Hague se souviennent que la lumière est restée allumée chez Simone toute la nuit. Vers 22h30, à la fin du film à la télé, ils ont entendu un bruit sourd, comme un corps qui tombe, puis un bruit d'aspirateur. Le lendemain, dimanche, elle leur a demandé comment fonctionnait un couteau électrique. Puis vers minuit, les Hague ont aperçu leur voisine en train de descendre un gros sac poubelle noir. Elle l'a mis dans le coffre de sa Renault 9. Lundi, elle a chargé une quinzaine de sacs dans le coffre de son autre voiture, la Renault 5 rouge. Les jours suivants, Simone Weber a nettoyé les escaliers avec une petite brosse et a étendu deux petits tapis dans la cour. Dimanche 15 septembre 1985, trois mois après la disparition de Bernard Etier, un pêcheur repère une valise qui flotte entre deux eaux dans un bras de la Marne à Poincy, en Seine-et-Marne. À l'intérieur, le tronc d'un homme emballé dans une bâche en plastique. La police feuillette le fichier des personnes disparues, les photos de la valise circulent. Patricia Etier reconnaît formellement ce bagage qui appartient à son père, il venait tout juste de l'acheter. Le parpaing qui a lesté la valise est analysé. Il est couvert d'éclats de peinture bleu ciel, couleur qu'on retrouve dans le jardin d'une petite maison que possède Simone Weber à Rosières aux Salines, en Meurthe-et-Moselle. L'ex-maîtresse du disparu va être arrêtée et entraîner tout le monde dans son labyrinthe. Vendredi 8 novembre 1985, Simone Weber est interpellée par les policiers de Nancy. Sa sœur Madeleine, qui habite Cannes, est également placée en garde à vue. Lors de l'enquête, d'étranges conversations entre les deux femmes ont été enregistrées. Simone y évoque les déboires scolaires d'une petite Bernadette qu'il faut changer d'établissement. Bernadette est en fait le nom de code donné à la Renault 9 du disparu Bernard Etier, véhicule entreposé dans un box à Cannes. En dépit des indices et des charges, Simone Weber, regard bleu acier, voix mesurée, ne bronche pas. Elle a réponse à tout. Oui, elle attendait son examen à 5h du matin le 22 juin, mais pas avec un fusil. J'avais besoin de ses services à propos d'un lavabo bouché, je voulais être sûr de le rencontrer, dit-elle. À ces deux adresses de Nancy, les enquêteurs ont mis la main sur deux carabines 22 longs rifles, du sang humain est détecté. Dans la voiture de Simone Weber, on a encore retrouvé une meuleuse tronçonneuse électrique à disque, du matériel professionnel, 6000 tours minute, matériel qui peut découper la pierre. La tronçonneuse avait été louée au magasin de bricolage Outika. Elle a été parfaitement nettoyée, mais après démontage, les experts ont relevé dans le mécanisme des résidus de chair humaine. Dimanche 10 novembre, le juge de Nancy, Gilbert Thiel, inculpe Simone et Madeleine Weber. Cette dernière sera mise hors de cause quelques semaines plus tard. Simone Weber se lamente et nie toute implication dans la mort de Bernard Etier. Mais les indices et les preuves s'accumulent. Une douille de 22 longs rifles a été retrouvée dans l'appartement de l'avenue de Strasbourg. L'ex-amant a probablement été tué d'une balle dans la tête, une tête introuvable, puis a été découpé avec la tronçonneuse électrique. Nicole, une sœur de Simone Weber, dit l'avoir croisée lors d'un enterrement quelques semaines après la disparition de Bernard Etier. Elle a noté son attitude bizarre. Elle se retournait tout le temps et se comportait comme si elle était traquée ou surveillée, dit-elle. Le juge joint au dossier des mots manuscrits dans lesquels Simone parle de son amour chaotique pour Bernard Etier. Leur liaison a commencé en novembre 81 et s'est achevée fin 82. À ce moment-là, elle note, désabusée, « Mon cœur devra-t-il donc toujours être en morceaux ? Dieu ne peut exister, mon âme est prête à vivre le pire. » Auparavant, elle a écrit en parlant de Bernard, « Comment est-il possible qu'un être soit capable de tant d'inconscience, de méchanceté et de mépris des choses les plus sacrées et les plus nobles ?» Les autres maîtresses de son amant sont qualifiées de résidus, de déchets de la société, de pochardes. Début 85, lettre à sa sœur, « Ce soir, je vais faire payer à l'autre ce qu'il m'a fait. » Il apparaît que Simone n'a jamais pardonné à Bernard d'avoir des maîtresses et d'avoir rompu. Elle le suivait, vérifiait le compteur de sa voiture pour savoir combien de kilomètres il avait parcouru. Le soir de sa disparition, il devait retrouver Monique Nuss, sa dernière compagne. Simone Weber avait demandé à un cousin d'appeler Monique pour lui dire que Bernard ne viendrait pas. Il avait finalement décidé de passer le week-end à la campagne, dans les Vosges. Investigation loin d'être terminée, puisqu'une possible seconde victime va apparaître. En remontant le curriculum vitae de Simone Weber, le juge Thiel note qu'en 1980, Simone Weber, alors âgée de 49 ans, avait épousé à la mairie de Strasbourg le dénommé Marcel Fixard, 79 ans. C'était un bel homme, il avait de grandes qualités de cœur. Je ne cherchais pas un homme à mettre dans mon lit, dira-t-elle. L'homme est brutalement décédé 14 jours après le mariage, un infarctus. Simone a alors hérité de ses biens, notamment la maison de Rosières aux Salines. L'enquête montre montre que diverses signatures du défunt ont été contrefaites dans les documents officiels, ceux de l'héritage, mais aussi ceux du mariage. Un scénario incroyable est mis au jour. Marcel Fixard n'était pas l'homme qui s'est présenté au bras de Simone devant Monsieur le maire. Il s'agissait tout simplement d'un comédien alsacien à la retraite, Georges Essling, embauché pour l'occasion par Simone. Impossible d'interroger ce faux marié. Il est décédé 3 mois après la cérémonie. Le juge estime qu'au mieux, Simone Weber a organisé ce mariage bidon pour capter à son insu l'héritage de Fixard. Au pire, elle l'a tué. Elle aurait pu l'empoisonner avec l'un de ses produits retrouvés dans sa pharmacie, antalgique, somnifère, mais aussi digitaline, un stimulant cardiaque. Elle en avait acheté 2 boîtes avant la mort de Marcel Fixard. Le corps du défunt est exhumé, mais il ne recèle aucune trace de digitaline. Pendant 3 ans, les enquêteurs vont continuer à explorer les méandres, les recoins de la vie de Simone Weber. On s'interroge notamment sur la découverte chez elle de 37 tampons dérobés dans des mairies, des cabinets médicaux, des pharmacies. Le dossier compte 18 000 pages de procès-verbaux, une 60aine d'expertises. Simone Weber reste stoïque, elle se dit innocente à 23 reprises. Elle va demander à être remise en liberté provisoire. Simone Weber nie, mais c'est pour les morts de l'ex-amant et du faux mari qu'elle va finalement être jugée. Jeudi 17 janvier 1991, 5 ans et 2 mois après son arrestation pour le meurtre de Bernard Etier, Simone Weber, 60 ans, apparaît devant la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle à Nancy. Pimpante, une permanente blonde, le regard agile, elle sourit aux photographes décontractés. Elle se veut aux commandes de son procès, elle demande à ses avocats de récuser tel ou tel juré. Quand les témoins s'expriment, elle note scrupuleusement leurs propos, ne laisse rien passer. Son premier mari vient dire qu'elle voulait le faire enfermée dans un asile. Il la décrit comme une mauvaise femme. Elle l'accuse de toutes les perversions et laisse l'ex-époux interloqué. Elle se plaint du portrait qui est fait d'elle. D'une voix presque plaintive de petite fille, elle dit « J'entends tellement de choses abominables, de choses déformées ». Simone Weber, interrogée sur la mort de Bernard Etier, conteste que le tronc repêché dans la Marne soit le sien. « Il fallait trouver un corps à Bernard pour me condamner à la prison à vie, pire que la peine de mort. » Elle ajoute « Avoir de la peine pour Patricia, la fille du défunt, puis avance d'une voix lasse. On voudrait faire croire que j'ai délibérément coupé en morceaux un être que j'aimais bien, c'est faux. Je n'ai jamais assassiné personne, je ne sais pas pourquoi je suis ici. » La cour ne va pas s'attarder sur l'empoisonnement possible de Marcel Fixard, pas de preuves. Simone Weber est acquittée pour cette affaire. Pour Bernard Etier, elle écope de 20 ans de prison pour meurtre commis sans préméditation. Elle n'a pas assisté au verdict, elle s'est évanouie à la fin des débats après avoir prononcé ces mots. « Je ne suis pas le monstre que vous avez bâti !» La condamnée retrouve sa prison, elle en sortira 8 ans plus tard. Mercredi 17 novembre 1999, Simone Weber, 69 ans, quitte discrètement la prison des femmes de Rennes. Elle avait averti qu'après sa libération, elle prendrait l'avion pour n'importe où, histoire de quitter ce pays pourri. Elle va finalement s'installer à Cannes, près de sa sœur Madeleine, à la mort de celle-ci en 2016. Des policiers vérifieront si ce décès n'était pas dû à un empoisonnement. « Tout cela parce que je m'appelle Simone Weber », dira-t-elle.
C'est même pas imaginable, d'écrire, de voir que les preuves là sous leurs yeux, mais ils mentent. Si vous saviez, tous les gens là, innocents, qui sont en prison, je vais m'avoir un revolver, je me descendrais aussi vite, hein. Parce que si vous saviez comment j'ai été roué de coups, la tête tapée comme un mur, qu'elle disait « on te fera crever, la Weber ». Les méchancetés que j'ai à longueur de journée. J'étais la Simone Weber, de la fausse Simone Weber.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.